Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jérôme, le 30 septembre. Saint Jérôme, c'est l'homme de l'Écriture, celui qui nous a donné la Vulgate, le texte latin de l'Écriture, qui est la version officielle de l'Église latine, la seule version latine déclarée authentique par l'Église catholique, et l'un des plus grands trésors de son patrimoine. Nous voudrions donc profiter de cette occasion pour dire quelques mots sur l'Écriture sainte et sa lecture. Commençons par résumer la vie du solitaire de Bethléem. Saint Jérôme est né de parents chrétiens entre 340 et 347 à Stridon, en Dalmatie. Aujourd'hui, c'est aux confins de la Croatie. À 12 ans, il partit faire de brillantes études littéraires à Rome. Toute sa vie, Saint Jérôme sera un étudiant passionné. Et c'est à Rome qu'il reçut le baptême, sans doute en 366. Il connut ensuite une vie de voyage qui le mena d'abord en Gaule, à Trèves, où il découvrit la vie monastique. Et puis il se rendit ensuite à Aquilée, au nord de l'Italie, où il s'adjoignit à une communauté d'ascètes adonnés à la prière et à l'étude. Un événement dont on ignore complètement la nature le contraignit à partir au bout de 6 ou 7 ans. Alors il gagna l'Orient. Il s'installa à Antioche, en Syrie, chez le prêtre Evagrios, qui était le traducteur de la vie de saint Antoine par saint Athanase. Et là, il se jeta à corps perdu dans ses chères études. Il perfectionna sa connaissance du grec. Il lut Plaute, Cicéron, Virgile, tous les classiques latins et grecs, et puis aussi la Bible. Mais, épuisé, il tomba gravement malade. On préparait déjà ses funérailles quand il eut un terrible songe qu'il a lui-même raconté. Je vous le cite. « Soudain, je fus ravi en esprit et entraîné au tribunal du juge. Interrogé sur ma condition, je répondis que j'étais chrétien. « Tu mens, » répondit celui qui siégeait. « Tu es cicéronien et non pas chrétien. Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Aussitôt, je me tus. Le juge avait ordonné qu'on me frappât. Mais sous les coups, c'était ma conscience qui me brûlait davantage. Quelle torture ! Je criais, je gémissais. « Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi !» Les assistants, prosternés à genoux, suppliaient le président de pardonner à ma jeunesse, d'accorder à ma faute le temps du repentir, quitte à reprendre plus tard le supplice mérité si jamais je lisais encore des livres de littérature païenne. Quant à moi, dans une passe si critique, j'étais prêt à promettre bien davantage. « Seigneur, si jamais je possède des ouvrages profanes ou si j'en lis, c'est vous que j'aurais renié. » Et saint Jérôme termine ainsi ce récit un peu pittoresque, il faut bien le dire. « Depuis lors, j'ai donné au livre divin les soins que je mettais à lire ceux des hommes. » Et il restera fidèle toute sa vie à cette préférence absolue accordée au livre divin. On peut dire que c'est à partir de ce moment-là que saint Jérôme est devenu ce qu'il est resté pour la postérité, le grand spécialiste de l'Écriture sainte. Assoiffé d'absolu, Jérôme prit alors le chemin du désert de Calchis, situé au sud-est d'Antioche. Il allait y demeurer 2 ans, 2 ans et demi même, dans une caverne où il avait apporté avec lui sa bibliothèque. Se livrant à d'effrayantes austérités pour mater ses ardentes passions et conquérir la paix de l'âme. « J'étais assis tout seul, rempli d'amertume, écrit-il dans son style truculent, hideux sous le cilice horripilant, avec une pellicule de crasse qui me faisait une peau d'Éthiopien. Chaque jour des larmes, chaque jour des gémissements. Si le sommeil, malgré ma résistance, m'écrasait, mes os, qui ne se tenaient presque plus, se heurtaient à la terre nue. » Derrière cette peinture un petit peu effrayante, il faut dire que saint Jérôme était très heureux. Dans cet affreux désert, il était comme dans un paradis, parce qu'il y vivait aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il apprit l'hébreu auprès d'un juif converti, langue dans laquelle il deviendra bientôt un très grand spécialiste, un très grand expert. Vers 377 ou 378, il reprit la route d'Antioche et il accepta, après quelques résistances, d'être ordonné prêtre par l'évêque Paulin, qui était l'évêque de la ville, à condition de ne pas renoncer à la vie monastique. Et puis il partit pour Constantinople, perfectionner ses études, toujours les études. Et là, il se lia d'amitié avec saint Grégoire de Nazianze, qu'il appellera ensuite « mon maître dans l'étude de l'Écriture sainte ». Et puis en 382, nouveau voyage, nouveau départ vers Rome, retour à Rome, en compagnie de saint Paulin d'Antioche, qui l'avait ordonné prêtre, et de saint Épiphane, qui étaient deux champions de la lutte contre l'arianisme. À Rome, le pape saint Damase remarqua bientôt ce moine ascétique et érudit qui connaissait l'Orient et qui savait l'hébreu. Il le prit comme secrétaire particulier, archiviste et conseiller. Et surtout, il comprit la vocation de Jérôme et lui confia officiellement le soin de réviser l'ancienne version latine des évangiles, qui était très imparfaite, et aussi le psautier qui était en usage à Rome, donc le psautier latin. Et au bout d'un an, Jérôme pouvait adresser au pape le résultat de son travail. C'était l'ébauche de la future Vulgate. Avec du vieux, écrivait-il à Damase, au pape Damase, vous m'obligez à faire du neuf. En arbitre, je dois confronter des exemplaires de l'écriture dispersés à travers le monde. Comme ils divergent entre eux, je suis chargé de décider quels sont ceux qui concordent avec l'original grec des évangiles. Juger les autres quand on les soi-même en butte au jugement de tous. Le premier venu criera que je suis un faussaire et un sacrilège. Pour que mes textes ne soient pas trop différents des lectures latines dont on a pris l'habitude, j'ai freiné ma plume. C'est ce qu'il dit dans l'introduction à sa révision des évangiles. Et pendant ce séjour romain, Saint Jérôme, fit la connaissance d'un cercle de grandes dames romaines cultivées qui se réunissaient sur l'Aventin pour s'exhorter à la vertu et mener une sorte de vie consacrée dans le monde. Parmi elles se trouvaient deux saintes veuves, Marcella et Paola, et puis les filles de cette dernière, Blésilla et Eustochium. Jérôme devint le guide spirituel du groupe. Il leur expliquait les Écritures, il leur faisait des conférences, et puis il leur apprenait même l'hébreu. Mais comme saint Jérôme ne s'était pas privé de reprendre sans pitié les faux moines et les clercs relâchés qui déshonoraient la ville de Rome, une cabale se ligua contre lui après la mort de son protecteur saint Damase, et il dut quitter la ville éternelle. Donc, nouveau voyage. Alors, il repartit pour l'Orient avec son jeune frère Paulinien et quelques moines. Et à Antioche, en Syrie, donc, Paula et sa fille Eustochium, que l'Église canonisera d'ailleurs, sainte Paula et sainte Eustochium, les rejoignirent avec quelques moniales, et la caravane ainsi formée entreprit un grand pèlerinage de plus d'un an à travers la Palestine et l'Égypte, avant de se fixer définitivement à Bethléem en 386, tout près de la grotte de la Nativité, pour y mener la vie monastique dans la prière, l'étude et la pénitence. Comme saint Jérôme devait l'écrire plus tard, on regarde l'Écriture sainte avec d'autres yeux si l'on a parcouru la Judée et si l'on connaît les villes et les paysages anciens. C'est le pays de notre Seigneur, c'est là qu'il a vécu, ce sont les paysages qu'il a vus. À Bethléem, Paula consacra sa fortune à l'édification de deux monastères, un pour les moniales et puis un pour les moines. Et ce monastère de moines, qui avait saint Jérôme comme supérieur, compta jusqu'à 50 frères. Cette stabilité au pays de la Bible, qui devait durer 34 ans, il restait 34 ans à vivre pour saint Jérôme, assura à ses études scripturaires des conditions de travail exceptionnelles. Il acheva les révisions de la Bible qu'il avait commencé à Rome, et surtout, il entreprit de traduire en latin tout l'Ancien Testament à partir du texte hébreu. Il dut pour cela créer une magnifique bibliothèque, en réunissant un grand nombre de manuscrits hébreux, grecs, syriaques, latins, qu'il fit recopier à grands frais. Tout ça se faisait manuellement. En même temps, il publia plusieurs commentaires sur l'Ancien et le Nouveau Testament. On a de lui des commentaires notamment sur les prophètes, qui sont très beaux, et puis un commentaire de l'Évangile de saint Matthieu, et d'autres encore. Il publia aussi des traductions d'œuvres patristiques des pères de l'Église qui l'avaient précédé, et divers travaux dogmatiques et polémiques. Saint Jérôme était un grand polémiste contre l'erreur origéniste, contre l'hérésie pélagienne, et aussi contre les détracteurs de la virginité consacrée. Notamment, saint Jérôme s'est battu contre ceux qui attaquaient la virginité de la Vierge Marie. Il a écrit des choses très, très fortes et très belles à ce propos. Sans parler de son abondante correspondance qui l'amena à traiter des questions d'exégèse les plus ardues avec les plus grands esprits du siècle. Certaines de ses lettres sont de véritables dissertations scientifiques. Enfin, épuisé par le travail et par les austérités, saint Jérôme mourut à Bethléem le 30 septembre 420. Sans contredit, saint Jérôme fut le plus érudit des pères de l'Église latine, et l'Église l'honore comme un saint et comme un docteur. Il fut un lutteur acharné, un défenseur intrépide de l'orthodoxie. Son amour pour les saintes écritures, son zèle pour en acquérir la science, son ardeur au travail de l'esprit, mais aussi son ascétisme, c'était un grand moine. La rectitude de son sens catholique, la vigueur de sa foi, tout cela ont fait de lui le modèle des exégètes et des savants chrétiens. L'historien Sulpice Sévère a écrit de lui ce bel éloge. Une lutte de tous les instants, et un duel ininterrompu avec les méchants ont concentré sur Jérôme les haines des pervers. En lui, les hérétiques haïssent celui qui ne cesse de les attaquer, les clercs celui qui leur reproche leur vie et leurs crimes. Mais tous les hommes vertueux sans exception l'aiment et l'admirent. Alors, quelles leçons tirer de tout cela ? Eh bien, il faut demander à saint Jérôme qu'il nous communique son grand amour des saintes Écritures et qu'il nous enseigne à les lire comme il faut, c'est-à-dire à les lire de manière orthodoxe, selon l'interprétation que l'Église en donne, et non pas selon notre propre sentiment ou d'après les élucubrations des hérétiques, et puis aussi à les lire de manière profitable, de sorte que nos âmes en tirent un véritable profit. Lire l'Écriture de manière orthodoxe, qu'est-ce à dire ? En s'inspirant d'un commentaire de saint Thomas, un auteur contemporain a comparé l'Écriture sainte au puits de Jacob, où venait puiser la Samaritaine que Jésus convertit. Saint Jean raconte cela au chapitre 4 de son Évangile. La sainte Écriture, écrit cet auteur, est un puits creusé par Dieu. Sa profondeur est infinie, puisque c'est celle du Saint-Esprit lui-même. En face de ce puits merveilleux, celui qui n'est pas l'instrument de l'Esprit-Saint n'a pas de quoi puiser. Il n'y a que l'Esprit-Saint, et donc le catholique comme tel, qui puisse atteindre ces eaux profondes. Quand la corde n'a pas cette longueur divine, impossible, le véritable sens demeure fermé. Tous ceux qui veulent comprendre l'Écriture autrement que dans l'Esprit-Saint et par l'Esprit-Saint n'y comprendront jamais rien. Et non seulement ils n'y comprendront rien, mais cette eau vive deviendra pour eux une eau empoisonnée. Et c'est bien vrai. Et c'est pour cette raison que saint Jérôme lui-même explique dans sa lettre à saint Paulin de Nole que l'interprétation de l'Écriture demande des maîtres. Et ces maîtres, ce sont ceux que l'Église nous donne. Voici ce qu'il écrit. « Tu ne peux aborder le domaine des saintes Écritures sans un guide qui te montre le chemin. En effet, cet art, celui des Écritures, tous, pêle-mêle, le revendiquent pour eux-mêmes, tous s'en targuent, le sabotent, l'enseignent avant de l'avoir appris. Ils ne daignent pas s'informer de l'opinion des prophètes ou des apôtres, mais ils ajustent à leur sentiment personnel des textes déplacés, comme si c'était une méthode magnifique et non pas très fautive que d'altérer le sens des phrases et de faire violence selon ses désirs à l'Écriture, même si elle y répugne. » Vous voyez, dans cette remarque de saint Jérôme, Il y a déjà la réfutation du libre examen protestant et de la prétendue liberté de recherche de toute l'exégèse moderniste actuelle. Mais il ne suffit pas de lire la Sainte Écriture de manière orthodoxe, il faut la lire aussi de manière profitable. Et d'abord, il faut la lire. Elle a été écrite pour notre instruction. Mais par quel bout commencer ? C'est un monde, la Sainte Écriture, un monde extrêmement vaste, 73 livres en tout, 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Alors il ne faut surtout pas chercher à tout lire de A à Z sans ordre ni méthode, et surtout sans préparation. En priorité, il faut lire le Nouveau Testament, et spécialement les Évangiles. C'est triste de voir que beaucoup de catholiques n'ont jamais lu les quatre Évangiles en entier, de manière cursive. Ils se contentent des extraits qui sont dans le missel, alors c'est déjà bien, et encore, à condition d'avoir un missel. Les Évangiles constituent la meilleure nourriture de l'âme. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et il existe d'excellents commentaires tout à fait abordables, par exemple celui de Don de Latte, il se trouve dans la librairie de près qui est à côté. Quant à l'Ancien Testament, avant d'aborder le texte, il faut commencer par lire une bonne histoire sainte qui résume les faits et les textes et montre comment ils sont ordonnés au Christ. Car l'Ancien Testament n'a de sens qu'en fonction de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout entier orienté vers lui et vers sa croix. Saint Augustin a résumé cette doctrine dans une formule célèbre. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau se cache, et dans le Nouveau, l'Ancien est dévoilé. In vetere testamento novum latet, et in novo vetus patet. C'est le Nouveau Testament qui donne la clé pour comprendre l'Ancien. Il faut donc lire l'Ancien Testament uniquement dans la perspective et à la lumière du Nouveau. Enfin, quand on lit le texte sacré de l'Écriture, il faut le faire comme il convient, c'est-à-dire lentement, posément, de manière à laisser à l'esprit le temps de s'imprégner profondément de la parole de Dieu qui est placée sous nos yeux. On ne lit pas l'Écriture sainte comme on dévore un roman, ou comme on parcourt un magazine, entre deux portes. Il faut choisir le bon moment, le bon endroit, au calme, l'esprit dispos, après avoir prié, et prendre le temps, au fur et à mesure qu'on lit, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est notre Seigneur qui dit cela dans l'Évangile. Et saint Jérôme explique que dans cette injonction de notre Seigneur, le mot « audire », « entendre » désigne non pas ce que l'oreille entend, mais ce que le cœur perçoit, et donc s'applique aussi bien à la lecture qu'à l'audition. Les anciens disaient, d'une manière imagée mais très vraie, que l'esprit de l'homme est comparable à un moulin qui tourne sans arrêt. Jeté sous la meule de l'orge, vous aurez de la farine d'orge. Jetez du blé, vous aurez de la farine de blé. Si l'on nourrit l'esprit de livres mauvais, il produira nécessairement de mauvaises pensées qui engendreront de mauvaises actions. Si on lui donne des livres frivoles, il enfantera des pensées frivoles. Mais si on lui donne de bons livres, a fortiori des livres saints, la Sainte Écriture, alors il se tournera vers le bien. L'âme qui veut vraiment se remplir de Dieu doit fuir avec le plus grand soin non seulement les lectures mauvaises, mais même les lectures inutiles. Celles-ci sont inévitablement des nids de distraction qui viendront harceler l'âme au moment de la prière. Et puis, elles sont impuissantes à vraiment apaiser la faim de l'esprit. Saint Jérôme compare ces lectures inutiles aux glands des pourceaux dont l'enfant prodigue cherchait en vain à se nourrir. Vous vous souvenez, l'évangile de l'enfant prodigue. Pour terminer, écoutons deux remarques de saint Jérôme. Elles sont brèves. Elles soulignent la nécessité de connaître l'Écriture sainte et l'immense avantage que procure sa lecture régulière. La première remarque dit ceci. Le Christ a dit « Scrutez les Écritures » et aussi « Cherchez et vous trouverez ». Je ne veux pas qu'ils me disent comme aux Juifs, Vous êtes dans l'erreur parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » C'est une citation de saint Matthieu. Si, selon l'apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et si celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse, alors ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. L'expression est très belle. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. C'est là qu'on le trouve. Et la deuxième remarque, elle est tirée de la lettre de saint Jérôme à saint Paulin de Nole. « Je te le demande, frère très cher, vivre au milieu de ces textes, les méditer, ne rien connaître, ne rien chercher d'autre. Ne crois-tu pas que c'est déjà, dès ici-bas, habiter le royaume céleste ? Ne sois pas choqué, je te prie, dans les Écritures saintes, par la simplicité et presque la vulgarité du langage, soit par la faute des traducteurs, soit même à dessein. Elles se présentent de telle sorte qu'elles puissent assez aisément instruire un auditoire populaire, mais de façon que dans une seule et même phrase, le savant et l'ignorant découvrent des richesses différentes et infinies. » Et il termine ainsi, « Étudions sur terre ce dont la science persévérera pour notre bonheur dans le ciel. » Eh bien oui, mes frères, suivons ces conseils de ce grand maître que fut saint Jérôme et demandons à Notre-Dame la grâce d'aimer et de scruter sans relâche le trésor caché des Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.